Alors, qui a pu regarder les questions de préparation, de réflexion pour aujourd'hui qui étaient sur une des pages de vos cahiers? Vous avez pu regarder ça? Ah, mon groupe était très fort, hein? Je suis fière de vous. Très fière de vous. On vous donne chaque fois des questions à préparer, à réfléchir pour la prochaine étude, parce qu'on veut vous encourager à étudier la parole tout au long du mois. Voilà. Donc, si vous avez pu faire ça, je pense que vous allez profiter encore mieux aujourd'hui. Alors, vous voyez cette belle photo ici. Alors, il s'agit de ma sœur Karen et de sa petite fille. Elle s'appelle Philippa. OK? Alors, ma sœur Karen, elle a 35 ans. Philippa, elle a 18 mois. Et ma sœur se réjouit beaucoup de cette petite. Elle entend même son deuxième enfant pour le mois de juillet. Alors, aujourd'hui, je veux vous expliquer quelque chose par rapport à ma sœur et Philippa. Vous allez voir pourquoi. Philippa, elle est pleinement enfant. Elle est pas moitié bébé, hein. Elle est complètement, pleinement bébé. OK? Donc, ça, c'est un de vos trous, là. Elle est pleinement bébé. Elle partage toutes les caractéristiques d'un enfant. Mais imaginez si vous voyez ma sœur Karen en train de jouer avec une poupée, en train de lui donner son biberon, une poupée, hein, en train de changer sa couche et de lui chanter. Tu dirais, mais c'est très étrange parce qu'elle a une vraie fille. Elle a la réalité. Pourquoi elle serait préoccupée par une poupée quand elle a la réalité, hein? Vous voyez, ça serait très étrange. Vous direz, alors là, elle a un petit problème. Hein? OK? Parce que Philippa, elle est pleinement enfant. Il serait très étrange pour ma sœur de vouloir ça si elle a la réalité. OK? C'est pas compliqué. Vous êtes avec moi? Alors ça, c'est un peu le thème de notre étude. Pourquoi? Parce que quand Paul, il a écrit aux Colossiens, ses frères et sœurs, ils étaient de jeunes convertis, probablement. Et ils étaient susceptibles de croire qu'il leur manquait quelque chose. Alors, pourquoi? Vous savez, si vous êtes jeunes convertis aujourd'hui, ou si vous vous souvenez des premiers jours, d'abord, on est tout content. Ah, j'ai un sauveur, je suis pardonné, j'ai une nouvelle vie. Et puis après, on peut commencer à se dire, mais pourquoi je lutte encore avec le péché? Pourquoi je me mets toujours en colère avec mon mari? Pourquoi je suis toujours tentée avec ma bouche? Et on peut se sentir frustrée, n'est-ce pas? Et je pense que c'était peut-être le cas pour les Colossiens. Et Paul, il s'inquiétait pour eux parce qu'ils étaient susceptibles de croire « Ah, il me manque encore quelque chose !» C'est ça, il me manque quelque chose. Et puis il y avait des gens qui disaient « Ah, oui, il vous manque quelque chose !» Si vous voulez avoir vraiment la plénitude, si vous voulez vraiment connaître Dieu, vraiment être spirituel et tout, être droit, il faut faire ceci ou il ne faut pas manger cela. Vous voyez? Et il se disait, ah, peut-être c'est ça qui me manque. Et Paul, il voulait qu'ils comprennent que non, il ne leur manquait rien. Ils avaient déjà tout pleinement en Jésus-Christ. Ils n'avaient pas besoin de poupées. Ils avaient la réalité. Ils avaient la vraie chose, ils avaient un vrai sauveur qui était tout ce qu'il leur fallait. Il ne leur manquait rien. OK? Donc, si vous voyez ma sœur en train de jouer avec une poupée aujourd'hui, j'imagine que tu lui dirais, mais Karen, écoute, tu es déjà maman. Tu as une vraie fille. Ce qu'il te faut, c'est pas ça. C'est pas une poupée. C'est de vivre à fond ta vie de maman. De profiter d'elle. D'apprendre comment être une meilleure maman, oui. Ça, tu vas apprendre toute ta vie, mais tu as la fille. Tu as tout ce qu'il faut pour être maman. Il ne te manque rien. D'accord? Ça, c'est un peu le thème de notre étude aujourd'hui. Donc, ils avaient déjà tout pleinement en Jésus. Pour cette vie et pour la vie à venir. Ils avaient tout. Ils n'avaient pas besoin de poupée. Bon, pas poupée, je veux dire tout autre chose. Hein? Donc, ils n'avaient pas besoin des règles alimentaires. Ils n'avaient pas besoin de rites. Ils n'avaient pas besoin des expériences mystiques. Non, ils avaient tout ce qu'il fallait. OK? Donc, la première question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Dieu accomplit pour nous en Jésus-Christ? Et pour quelle raison? On va lire ces versets, Colossiens 1, à partir de verset 12. Colossiens 1, 12. Radhi, est-ce que tu peux les lire pour nous?
Colossiens 1, verset 12.
Jusqu'à 23.
Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé pour lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre.
Merci beaucoup, Raji. Alors, il y a beaucoup de choses dans ces versets, n'est-ce pas? Mais on va se poser d'abord cette question. Qu'est-ce que Dieu a accompli pour nous en Jésus-Christ et pour quelles raisons? D'accord? Donc, premièrement, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez étudié ça, j'espère. Qu'est-ce que Dieu a accompli pour nous en Jésus-Christ et pour quelles raisons? Vous pouvez le... Charité? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Tout à fait. Donc ça, c'est un de ces trous-là. On va les voir tous, mais vous pouvez aussi nommer d'autres choses que vous avez trouvées. Qu'est-ce que Dieu a accompli pour nous en Jésus? Des saints dans la lumière. Tout à fait. Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Très bien. Alors ça, je crois que c'est mon premier ici. Ah non, ça j'ai oublié de dire. Oui. Paul, il voulait que les Colossiens comprennent mieux la personne et l'œuvre de Jésus-Christ afin de marcher en lui. Les diapos n'étaient pas en ordre, désolé. Voilà, il voulait qu'ils comprennent la personne et l'œuvre de Jésus-Christ afin de marcher en lui. Et nous avons besoin de la même chose. Nous avons besoin de la même chose. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Oui, tout à fait. OK, donc, il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alors, quel est cet héritage? Tout le livre de Colossiens nous parle de l'héritage.
La vie éternelle.
La vie éternelle. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre dans ces versets? Quel est cet héritage?
Jésus-Christ qui
est le mystère. OK. D'avoir Christ en nous, ça fait partie de notre héritage. Oui. Quoi d'autre?
La réconciliation avec Dieu le Père.
La réconciliation avec Dieu. Tout à fait. Quoi d'autre?
Le pardon du péché.
Le pardon du péché, oui. Il y a beaucoup de choses que nous avons dans cet héritage. Est-ce qu'on peut vouloir un meilleur héritage que ça?
Non.
Il n'y a rien de mieux dans l'univers que l'héritage que Dieu nous a donné. OK, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Charity a dit ça. Alors, est-ce qu'on peut chercher une meilleure délivrance, quelque part, que celle-là. C'est la plus grande délivrance. La délivrance de la puissance des ténèbres. Et c'est déjà accompli par sa grâce. Il a fait ça. Ouais. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Oui! Il nous a transportés, c'est merveilleux. Donc, on n'a pas besoin de travailler pour espérer d'être dans ce royaume un jour. Non, il nous a déjà transportés. Ceux qui sont venus en transport, aujourd'hui, vous êtes là. Le métro, le tramway vous a transporté et vous avez changé de place et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il nous a changé complètement de place, de royaume. Ok, aussi il nous a racheté. Oui, c'est la rédemption. C'est l'idée d'un achat qu'il a payé par son propre sang. On était à lui au tout début, mais à cause de la chute, on n'était plus du tout à lui. Et pour nous avoir, il a fallu payer. Comme dans un marché d'esclaves, il a fallu payer, mais il a payé par son propre sang, sa propre vie. Il nous a rachetés, il nous a aussi pardonné. Vous avez dit ça, il nous a pardonné. Oui, Jésus a accompli tout ça pour nous. Il nous a pardonné. Et pour quelle raison? Vous avez vu ça dans ces versets? Pour quelle raison? Pour nous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Ça, c'est la raison pour laquelle il a fait tout ça. Il anticipe le jour où chacune de nous seront présentées à lui. J'aime tellement imaginer ce jour-là. Ça serait plus beau que n'importe quel mariage quand la mariée, elle entre dans la salle, dans toute sa splendeur. Oh, j'aime ce moment pour que je pleure chaque fois. J'ai toujours mes mouchoirs avec moi parce que ça me touche tellement. Mais de pouvoir nous faire paraître, il va nous faire paraître devant lui. Et pas juste habillé dans une jolie robe, mais d'avoir le cœur complètement lavé, transformé, sans reproche. Ça serait merveilleux. Voilà, donc c'était la raison pour laquelle il nous a donné cet héritage. Voilà. Ok. Alors, le Seigneur, il a fait tout ça pour nous. Mais comme on a dit, on peut facilement se dire, mais est-ce qu'il me manque pas quelque chose? Est-ce que peut-être je suis pas assez bonne vraiment pour avoir tout ça? Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, il nous a fait tout ça. On n'a pas besoin de chercher une meilleure délivrance, un autre pardon, un autre héritage. Il nous a donné toutes les richesses, les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. N'est-ce pas? Tout est déjà à nous. Donc, comme j'ai dit pour ma sœur tout à l'heure, elle a déjà une fille. Elle n'a pas besoin de chercher des poupées pour jouer un peu à être la maman. Elle a tout ce qu'il faut. Et le Seigneur veut qu'on rende grâce à Dieu pour ces choses. Vous avez vu ça au tout début du verset 12. C'était le seul impératif. Est-ce que vous avez pris le temps, comme René a dit, de noter les impératifs ou les questions, les qui, les quoi, les comment? J'espère que vous avez pris le temps de faire ça. Et c'est le seul impératif ici, rendez grâce au Père. Parce que quand on se rend compte de toutes ces grâces en Jésus, on a juste envie de dire merci, n'est-ce pas? Il a fait tout ça pour nous. Ok, je crois que je n'ai pas imprimé une de mes pages. Donc j'essaie de me rappeler de mon illustration, mais bon, ça va bien. Pas la grâce à Dieu. Heureusement, j'ai le PowerPoint. Ok, le deuxième point. Alors, on s'est posé la question, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ? Mais la deuxième question, c'est qui est cette personne, Jésus-Christ? Et on va lire, bon, on vient de lire les versets. Ce sont les mêmes versets, mais on va se poser une autre question. Pas juste qu'est-ce que Jésus a fait, mais qui est Jésus? Parce que Paul, il voulait qu'il comprenne les deux choses. La personne de Jésus et l'œuvre de Jésus. On a vu son œuvre. Maintenant, on va penser à sa personne. Bonjour, Yvana. On va penser de sa personne. Qui est la personne de Jésus-Christ? Alors, il est L'image, vous avez vu ça? Il est l'image du Dieu invisible. Alors, je trouve ça vraiment un paradoxe. Un paradoxe, parce que si quelqu'un est invisible, on ne peut pas le voir. Mais il est l'image visible d'un Dieu invisible. Et vous savez qu'en hébreu, il parle de ça, le fait que Jésus soit l'image du Père. Peut-être on peut regarder ça rapidement en hébreu chapitre 1. Hébreu 1, verset 3. Il parle beaucoup du Fils ici, et le fait qu'il soit au-dessus de tout. Hébreu 1, 3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. On peut dire que Jésus est le copier-coller de Dieu. C'est comme le tampon, mais ce n'est pas juste une réflexion. Non, il est pleinement Dieu. Il est tellement pareil, c'est comme le copier-coller. Mais on peut le voir et on ne peut pas voir le Père. Donc c'est merveilleux d'avoir un sauveur qui s'est fait homme et qu'on peut vraiment comprendre mieux. Voilà, donc Jésus est l'image du Dieu invisible. Il y a quelques dimanches, Timothée a fait une étude sur le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais je trouve intéressant qu'il ne dit pas que Jésus est à l'image. Il n'était pas fait à l'image de Dieu. Il est l'image. Vous voyez, il y a une différence. Nous sommes, Dieu nous a fait selon son image, mais Jésus est l'image. Il égale l'image de Dieu. Voilà. C'est très important ça. Deuxième chose, il est le premier-né. Vous avez vu ça dans vos listes. Il est le premier-né de toute la création. Alors cette expression peut être difficile à comprendre, n'est-ce pas? J'ai pris du temps pour essayer de bien comprendre. Et là aussi, l'enseignement de Timothée m'a beaucoup aidé. J'ai pris plein de notes. Parce qu'il a mentionné deux versets qu'on trouve ailleurs dans la Bible qui peuvent nous éclairer sur cette expression. Parce que, attention, les témoins de Jéhovah, ils disent que ça dit que Jésus était le premier créé. Ça ne veut pas dire premier créé, hein? Premier né, ce n'est pas la même chose que premier créé. OK? Et regardons quelques autres passages qui vont nous aider à comprendre cela. Ok, quel est le premier passage? Quelqu'un peut me dire?
Psaume 89.
Psaume 89. Ouais. Regardons ça. Pardon? Oui. Psaume 89.
J'ai trouvé David, mon serviteur, que les oins de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut, et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre.
Merci. Vous voyez là, David, Dieu dit, je ferai de lui mon premier-né. Est-ce que David était l'aîné même de sa famille?
Non.
Donc la phrase après explique ce que ça veut dire, le plus élevé des rois de la terre. Ça parle d'une position d'honneur. David, il avait une position d'honneur bien au-delà de ses frères, n'est-ce pas? Il n'était pas le roi. David était un roi. Donc, quand il dit que Jésus est le premier-né de toute la création, ça veut dire qu'il a la position d'honneur. Il est le plus élevé de toute autre chose. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est un ange, comme disent les témoins de Jéhovah. Un ange ne peut pas être le premier de tout l'univers. Mais Jésus, il est vraiment le premier. Donc ça veut dire le plus élevé de toute la création. Et aussi, en Exode 4, 22, il n'est pas question de David, mais d'une nation. Donc vous pouvez imaginer de quelle nation il s'agit dans l'Ancien Testament. Exode 4, 22... Tu le diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Alors là aussi, hein, il s'agit d'une nation, Mais c'est évident qu'il a donné à Israël une position d'honneur qu'aucune autre nation avait. Okay? Voilà. Donc Jésus est le premier-né de toute la création, le plus élevé dans tout l'univers. Il est aussi quoi d'autre? Oui, la tête de l'Église. Il est le créateur de toutes choses. Vous avez vu ça? Tout a été créé par lui et pour lui. Il est le créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Oui, et on a beaucoup d'autres passages dans la Bible qui parlent de ça, qui nous expliquent que c'est Jésus-Christ qui a tout créé. Il est le créateur. Jean 1:3, par exemple, nous dit « Toutes choses ont été faites par elle, par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jésus a tout créé. Il est le créateur. L'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, le créateur de toutes choses, et il est avant toutes choses. Toutes choses subsistent en lui. Alors, quand on voit ce mot avant, ça peut avoir différents sens. J'ai creusé un peu et probablement ça veut dire qu'il existait avant toute autre chose. Il est avant dans ce sens-là. Il était là avant tout. Il est éternel. Il est avant toute chose. Toute chose subsiste en lui. Donc ce pupitre-là subsiste grâce à lui. Et mon corps existe aujourd'hui grâce à lui. Donc, il est vraiment dans une position tellement élevée. Il maintient l'existence de toute matière. Waouh! Il est aussi la tête du corps de l'Église. Donc, nous sommes en train de parler de la relation de Jésus-Christ avec toute autre chose. La relation de Jésus avec le Père, il est l'image. La relation de Jésus avec toute chose, il est le Créateur. Et maintenant, la relation de Jésus avec l'Église. Il est la tête, il est le chef, il n'y a personne au-dessus de lui quand il s'agit de l'Église aussi. Donc n'importe quel domaine qu'on trouve, Jésus, il est au-dessus de tout. Il est la tête, il est numéro un. Ok? Il est pleinement Dieu. Vous avez vu ça dans ce passage? C'est très important. J'aime beaucoup, ça m'est déjà arrivé d'avoir des dames qui m'appellent pour essayer de me convertir au témoin de Jéhovah. Elle m'appelle sur mon fixe, ça vous est arrivé aussi? Et ça m'est arrivé deux fois déjà à Gaulé. Et souvent, elle cite que Jésus est le premier, elle cite ce verset, mais elle ne lise pas la suite. Et vous voyez la suite du verset de Colossiens 1? Donc juste après 15, en lui ont été créées toutes les choses, verset 16. Verset 17, toutes choses subsistent en lui. Et puis verset 19, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Toute la plénitude de Dieu en lui. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ma petite nièce Philippa que vous voyez en bas, elle est tout pleinement enfant. On ne peut pas être plus enfant qu'elle est enfant. Ok? Elle n'est pas moitié enfant. Elle a la plénitude de l'enfance. Et Jésus-Christ, il a la plénitude de Dieu en lui. Il ne peut pas être plus Dieu que ça. Il est complètement Dieu. Il est pleinement Dieu. Ok, donc c'est tellement clair dans ces versets. Hein? Et aussi, on voit qu'il est le pourvoyeur de la paix. C'est lui qui nous donne la paix. C'est grâce au sang de sa croix. On aime bien chanter ici, nous étions autrefois ennemis de Dieu, vous vous souvenez de ce cantique? Et en fait, ça cite Éphésiens 2, on peut regarder Éphésiens 2, 14 à 17. Éphésiens 2, 14 à 17. Paul, il a écrit ces deux épîtres à peu près à la même époque. Donc, on retrouve souvent les mêmes thèmes dans les deux épîtres. Éphésiens 2, 14. René, est-ce que tu peux lire ça pour nous, 14 à 17?
Car il est notre paix. Lui qui des dieux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près.
Merci. Donc c'est la même chose qu'il dit en Colossiens. C'est lui qui nous réconcilie avec le Père, c'est lui qui nous donne la paix avec Dieu. Il fait la paix. Dans toute autre religion, on rabaisse la personne de Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte de ça. J'ai déjà mentionné les témoins de Jéhovah. Ils disent que Jésus, c'est un ange. C'est peut-être le plus haut des anges, mais il n'est pas Dieu. Donc, ils ne s'appellent pas des témoins de Jésus. Ils s'appellent des témoins de Jéhovah parce que pour eux, Jésus, il est en dessous. Mais Jésus est Jéhovah, selon la Bible. Il est pleinement Jéhovah. Quand il a dit « Je suis », il prenait le titre de Jéhovah. Vous voyez? Donc ça, c'est un gros problème. Même si elles vont employer, ces dames, elles vont employer beaucoup des mêmes mots. Mais si vous leur demandez, alors pour vous, qui est Jésus? Est-ce qu'il est pleinement Dieu? Alors non, tout de suite, non. Mais ce n'est pas le seul. Hein? Dimanche soir, j'étais chez des amis et on discutait. Et le mari, il m'a dit, bon, pour moi, ce n'est pas vraiment Jésus qui compte, c'est Marie. Moi, quand j'ai un problème, je vais prier Marie. Je vais en Normandie, il y a une statue de Marie, et là, je peux m'ouvrir, et vraiment, je lui parle de tout. Pour moi, ce n'est pas vraiment Jésus qui compte, c'est Marie. Vous voyez, Jésus, sa position, hop, il y a quelqu'un d'autre qui est mis au-dessus de lui. C'est tragique. Parce que, qui peut être plus haut que celui qui a tout créé, qui maintient l'existence de tout, qui a fait la paix avec Dieu, vous voyez? Marie n'a pas fait tout ça. Aussi, les musulmans, alors dans quasiment tous les foyers musulmans, comment s'appelle le fils, un des fils? Il ne s'appelle pas Jésus. Il s'appelle Mohamed. Parce que pour eux, Mohamed est très, très, très important, vous voyez? Donc ils vont dire, oui, Jésus, c'est un prophète, mais il n'est pas au-dessus de tout. Il n'est pas mort sur la croix, il n'est pas le fils de Dieu. Donc ils vont rabaisser la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et malheureusement, c'était le cas à Colosse, c'était le cas à cette époque et encore aujourd'hui. Les gens, ils vont parler de Jésus, mais ils vont toujours abaisser son œuvre et sa personne. Et c'est essentiel. Donc, comme on a vu, Jésus, il est au-dessus de tout. Et on peut vraiment louer Dieu pour ce sauveur merveilleux que nous avons. N'est-ce pas? Il est incomparable. Et on peut choisir de nous soumettre à lui avec joie. Il faut se soumettre à lui. De toute façon, il est au-dessus de tout. Il est le chef, la tête. Il est Dieu. Donc, on peut se soumettre à lui. La prochaine chose. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé pour cette question? Quel était le but principal de Paul dans son ministère? D'abord, on va lire ces versets. Colossiens 1, maintenant, on continue. 24. 1, 24, jusqu'au 3, jusqu'au chapitre 2, verset 3. Alors, quelqu'un a ça qui peut le lire pour nous? Charity, tu peux lire ça pour nous?
Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été féministe selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi.
Et jusqu'à chapitre 2, verset 3 aussi.
Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la au-dessus et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation et qu'il soit uni dans l'amour et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.
Merci beaucoup. Donc, quel était le but principal de Paul? dans son ministère, à votre avis?
Il voulait annoncer pleinement la parole de Dieu.
Exactement. Il voulait l'annoncer pleinement, complètement, sans rien cacher. Et il dit ici qu'il s'agit d'un mystère caché de tous les temps et dans tous les âges. Quand on parle des mystères, il y a aussi deux sens. Je peux dire, et c'est un vrai mystère pour moi, que chaque fois quand je répète au piano ou je donne un cours de piano, j'ai toujours un crayon avec moi. Je pose le crayon et il disparaît dans 5 secondes. C'est un mystère. Il y a peut-être un monstre dans mon piano qui mange. Et aussi dans n'importe quel piano, c'est le même monstre. Tu comprends, n'est-ce pas? Les crayons disparaissent. Alors, quand je dis c'est un mystère, ça veut dire je ne comprends pas. Mais ce n'est pas le sens ici quand il dit que c'était un mystère. Ce n'est pas ça. C'est un autre sens. C'est le sens que c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais su si Dieu ne nous avait pas expliqué, révélé. Vous voyez? C'était caché, on n'aurait jamais imaginé cette chose. Et Dieu, il a expliqué. C'est ça le mystère. C'était caché auparavant. Okay? Donc c'est ce que Paul voulait annoncer. Cette chose merveilleuse qu'on n'avait pas compris, qu'on n'avait pas su auparavant. Et aussi, quel est le mystère? C'est d'avoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous. Alors, c'est époustouflant hein, si tu essaies de saisir cette vérité Christ en nous. Imagine qu'aujourd'hui, on pouvait faire venir, pour notre étude, une femme qui vivait à l'époque de l'ancienne alliance, comme Ruth. Ok? Si on demandait à Ruth, alors Ruth, où est Dieu? Où est Dieu? Où est la présence glorieuse de Dieu? Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Il est dans le temple, dans le lieu très saint. Et nous, en tant que femmes, on n'a pas le droit d'y aller. Hein. C'est que le souverain sacrificateur. Et est-ce que lui, il avait le droit d'aller quand il voulait?
Une fois par an.
Avec le sang d'un sacrifice innocent. Donc si on demandait à cette femme où est la présence glorieuse de Dieu, elle dirait, Dieu, il est là, dans cet endroit très saint. Si on pouvait faire venir une femme plutôt de l'époque du Nouveau Testament, comme Marie de Magdalena, si on lui demandait, alors Marie, où est Dieu? Qu'est-ce qu'elle dirait? Il est là dans un bateau sur le lac de Galilée. Il est dans le jardin de Gethsémané en train de pleurer. Il est là, la présence glorieuse de Dieu, n'est-ce pas? Oui, donc là, c'était déjà merveilleux que la présence glorieuse de Dieu soit incarnée en Jésus-Christ. Mais imaginez que ces deux dames soient assises là et on leur dit, en fait, où est Dieu aujourd'hui? Quel est ce mystère? Christ. Oh non! Alors c'est nous le temple, en fait. Il est en nous. Qu'est-ce qu'elle dirait? Quoi? C'est pas vrai! Moi, vous êtes des païennes déjà, vous n'êtes pas juives. En plus, vous êtes des femmes. Et vous avez la présence glorieuse de Dieu en vous? Alors, je pense qu'elle dirait, il faut profiter alors. Donc vous pouvez aller dans le lieu très saint, vous pouvez prier quand vous voulez, et vous avez accès à sa présence. Mais j'espère que tu profites. Et peut-être elle dirait aussi, ça rigole pas le péché. Vous voyez que le souverain sacrificateur, quand il allait dans le lieu très saint, on mettait des clochettes sur ses vêtements, et on mettait un cordon, parce que s'il n'était pas purifié, il ne s'était pas purifié, il pourrait mourir sur le champ. Vous voyez? Et on a cette présence. On a Dieu en nous. On a l'esprit de Jésus-Christ en nous. Ça ne rigole pas le péché. Hein? Il faut prendre ça au sérieux. Et si vous lisez la suite de Colossiens, nous allons étudier ça dans les mois à venir. Toutes les parties commencent avec « donc, si donc » et « puisque » ainsi donc, parce que si Christ est en nous, c'est pas question qu'on se couche avec un homme qui n'est pas notre mari. C'est pas parce que Christ est en moi. Si Christ est en moi, je vais pas mentir parce qu'il est la vérité. Vous voyez? C'est vraiment la base de tout le reste de Colossiens, ces vérités de Jésus. Mais c'est merveilleux, je voulais parler un petit peu parce que c'est le mystère incroyable. On n'aurait jamais imaginé que Dieu vienne habiter en nous. C'est merveilleux. Christ en nous.
Ok, Paul, il voulait aussi annoncer la parole en exhortant et en instruisant. Vous avez vu ça? Il a dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. Là, il parle d'un effort. C'est un grand effort, c'est un travail d'encourager les chrétiens, de grandir dans leur connaissance de Christ. Et aussi, il l'annonçait en souffrant et en combattant. Vous avez vu ça? Je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens. Il se battait pour ça, pour que chaque chrétien, chaque frère, chaque sœur soit préparé pour ce jour de Christ. Alors pourquoi il emploie ces mots tellement graves, tellement difficiles, un combat? Pourquoi, à votre avis? Bonjour. Pourquoi il ne dit pas c'est mon petit boulot? Parce que, vous savez, pour suivre Jésus-Christ et pour apprendre aux autres de suivre Jésus-Christ, il faut porter sa croix. Chaque jour. C'est ça les souffrances de Christ, c'est de porter notre propre croix. Il faut mourir à soi-même. Tu te renonces à tes droits, non seulement pour ta vie, mais si tu veux encourager quelqu'un d'autre. Mais il s'agit de dépenser beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de... Comme Timothée, il a dit dimanche dernier. Si celles que j'aime et que j'essaie d'encourager dans le Seigneur, si elles vont bien avec le Seigneur, je vis. Si elles commencent à s'éloigner de Dieu, je souffre avec elles. Donc Paul, il avait ce combat tous les jours. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il parle en Philippiens d'autres frères qui avaient presque donné leur vie pour l'œuvre de Christ. Il n'était pas du tout le seul. Et il y a beaucoup qui aujourd'hui, le fait de vivre pour Christ et de vouloir encourager d'autres, ça peut coûter très très cher. Je vais vous montrer quelques exemples là. Il s'agit d'un couple que je connais, ils habitent en Turkménistan. Je les ai rencontrés il y a 2 ans. Ils habitent dans une ville où il n'y a aucun chrétien, aucune église. Ils essaient de commencer une œuvre. Et il y a quelques mois, le frère, il a été battu juste en quittant un magasin. Il s'est fait agresser. Il était terriblement battu au niveau de son visage. Et un ami missionnaire l'a vu en janvier. Il a dit qu'il est découragé. Ça ne va pas bien. C'est difficile pour eux. Aussi, un autre couple turkmène que j'aime beaucoup. Je prie souvent pour ces familles. Ils sont souvent harcelés par la police. Ils viennent prendre son téléphone et puis le détruire devant ses yeux. Ils coupent leur électricité. Ils les harcèlent pour qu'ils s'arrêtent. Mais ils ne veulent pas s'arrêter parce qu'ils aiment le Seigneur et ils ont le même combat que Paul il avait. Mais ce ne sont pas les seuls. Parce que tous nos anciens et leurs femmes, ils ont ce même combat pour chacun de nous. Donc, je vous donne quelques exemples. Vous savez que pour Rowena, elle a le même combat que Paul. Elle a le même combat. Vous savez qu'elle prie pour nous. Elle partage nos fardeaux. Et imaginez, déjà, on a nos propres fardeaux. Si tu portes les fardeaux de 10 autres personnes, c'est beaucoup. Mais pour elle, c'est plus que 10. N'est-ce pas? Mais c'est pareil pour nos anciens et leurs femmes. Je sais que... Ils passent beaucoup de temps à préparer les études. Ils manquent parfois de sommeil. On ne voit pas ça. Tout le temps qu'ils passent à préparer leur prédication, on ne voit pas. Mais le temps en famille, parfois ça manque terriblement. Parce qu'ils s'occupent de nous. Alors, on peut bien sûr remercier le Seigneur pour eux. On peut prier pour eux. Mais je vous assure que si on veut vraiment... les encourager, il faut marcher avec le Seigneur, parce que là, leur travail est très léger. C'est quand on commence à, entre nous, des conflits, un manque de pardon, un manque d'amour, le fardeau pour eux devient très dur, très lourd. Mais tous nos conducteurs spirituels, ils ont exactement ce même combat que Paul, il avait pour nous.
et on peut remercier le Seigneur pour eux. On peut vraiment et prier pour eux. Et puis, par la grâce de Dieu, nous engager aussi dans la formation et l'encouragement d'autres frères et sœurs. Voilà. Donc, on continue. La suite. Colossiens, on a déjà lu jusqu'à verset 3. On va lire maintenant la suite, verset 4. Je vais lire 4 à 7 d'abord. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Alors, donc, il dit déjà, quel est un avertissement que nous avons vu là? Quelqu'un peut lever la main pour Nassera? Oui, la séduction. Il dit que personne ne vous trompe. Oui, que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Surtout, comme on a dit au début, il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose. Et on peut aujourd'hui nous dire la même chose. Il nous manque quelque chose. Et ce n'est pas vrai. Il ne manque rien à ma sœur pour être une maman. Elle a la réalité. Elle n'a pas besoin de poupée. Il ne lui manque rien. Donc, Paul, il dit attention. Ne soyez pas trompés par ces discours séduisants. OK? Lisons verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Et puis, il explique ce qu'il veut dire. S'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes alimentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On va continuer dans une minute. Donc il dit le deuxième avertissement, que personne ne fasse de vous sa proie. Ça ressemble beaucoup au premier. Que personne ne fasse de vous sa proie. Il ne faut pas qu'on soit attrapé, piégé par ces idées comme « Oh, mais tu sais, Dieu, il veut que tu sois heureuse. Il veut que tu sois heureuse. Donc, si ça ne va pas avec ton mari, ce n'est pas grave. Dieu, il veut que tu sois heureuse. Tu peux le laisser. Est-ce que Dieu veut qu'on soit heureuse? Il veut. Oui, mais quel est le vrai bonheur? Oui, il veut qu'on soit heureuse. Mais la Bible dit « Non, elle a tout à fait raison. » Mais, en fait, la Bible dit que c'est celle qui se confie en l'Éternel qui sont heureuses. Oui, Dieu, il veut qu'on soit heureuse en se confiant en lui, pas en laissant nos maris, pas en abandonnant nos proches. Mais quand quelqu'un nous dit, « Oh, mais Dieu, il veut que tu sois heureuse », souvent, c'est ce qu'elle veut dire. « Oh, mais Dieu, il veut que tu profites de ta vie. » Mais ce n'est pas ça ce qu'il veut pour nous, vous voyez? Il faut qu'on fasse attention avec ces discours, avec ces choses qui ne sont pas du tout vraies. Okay? Et puis, verset 16, on peut lire verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé dans vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Donc le troisième avertissement, que personne ne vous juge au sujet des pratiques de l'ancienne alliance, comme ne touchez pas ça, ne mangez pas ça, ne faites pas ça le samedi, voilà. Et on peut nous culpabiliser, on peut essayer de nous culpabiliser. Tu fais ça? Tu manges la viande le vendredi? On n'a pas besoin de nous culpabiliser pour ça, n'est-ce pas? Parce que nous avons Christ. Il a accompli toutes les lois de Moïse pour nous, il a parfaitement accompli la loi. Donc on a la réalité en lui. On n'a pas besoin de couper. Ok? Et aujourd'hui, les discours séduisants ne sont pas exactement les mêmes. Il y en a d'autres, par exemple, « Ah, mais tu ne parles pas en langue !» Il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Non, la Bible dit, on a tout pleinement en Jésus-Christ. Il ne nous manque rien, pas aucune expérience spirituelle peut rajouter à l'œuvre de Jésus. Ou tu as besoin d'être délivré. Non, il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Il ne nous manque rien. Nous avons la réalité. Mais ce qui nous manque, c'est peut-être de le connaître mieux et de profiter pleinement de lui. Mais nous l'avons déjà. Okay. Donc, on va continuer. Le temps passe vite. La dernière chose. Qu'est-ce que nous avons en Christ? Et pourquoi est-ce si important? Alors, on va lire, on va relire versets 9 à 15. Parce que Paul, il parle encore une fois de Jésus-Christ et ce qu'il a fait et qui il est. Je pense que c'est vraiment le thème de ces versets, hein, parce qu'il revient dessus. Ok, à Patricia, est-ce que tu peux lire pour nous 9 à 15?
Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix.
Amen, merci. Donc, qu'est-ce que nous avons en Christ? Selon le verset 10, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons un sauveur divin d'abord. Nous avons un sauveur divin parce qu'il dit en verset 9, j'ai sauté 9, « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Jésus est pleinement Dieu comme ma petite nièce est pleinement bébé. Toute la plénitude de Dieu en lui. Nous avons un sauveur divin et nous avons tout pleinement en lui. Paul, il se répète quasiment parce qu'il veut tellement qu'ils comprennent cela. Aussi, il a dit, nous avons la circoncision spirituelle. C'est, dans l'ancienne alliance, il fallait circoncire les garçons. Mais c'était un symbole vraiment de ce que nous avons en Christ aujourd'hui. Le nouvel homme, que la chair, on est dépouillé de cette ancienne personne que nous étions. Et en Christ, nous sommes une nouvelle création. Et c'est la circoncision que la main n'a pas faite. C'est ce que Dieu a fait dans nos cœurs. Voilà. Et nous avons aussi, nous sommes unis avec lui dans sa mort et sa résurrection. Vous avez vu, vous étiez ensevelis avec lui, ressuscités avec lui. Nous sommes unis avec Jésus. Tout ce qu'il a fait, il a fait pour nous. Nous sommes unis avec lui dans sa mort et sa résurrection. Et puis il dit à la fin de cette partie, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. On était condamnés. Et maintenant, nous sommes innocents à ses yeux. Nous avons été justifiés. J'ai résumé tout ça en disant, nous sommes justifiés, déclarés innocents devant le juge. Innocents, grâce à lui et grâce à son œuvre. Il ne nous reste rien à faire pour être justifiés, c'est fait. Mais il faut vivre ça à fond, avec joie. Voilà. Donc, on est arrivé vers la fin, mais une question importante. Pour celles qui ont pu réfléchir pendant ce mois ou même aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez résumer la vérité principale de ce passage dans une seule phrase? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Qui peut nous dire une phrase que vous avez trouvée? Prisca?
Alors, moi j'avais dit deux manières de passé en Jésus-Christ nous a libérés du joug du péché et des doctrines. Dieu manifesté en Jésus-Christ nous a libérés du joug du péché et des doctrines. Et en un seul mot, j'ai mis libération.
Libération, très bien. Là, ça va.
Complet en Christ.
Complet en Christ, c'est très concis, c'est très bien. Complet en Christ, oui.
Une vie fondée sur Christ.
Une vie fondée sur Christ, oui. Tu as dû mémoriser les versets clés parce que ça parle de ça. Fondée en lui. Bravo. Quelqu'un d'autre? Oui, Jardine.
Faire un avec Christ et s'accomplir en lui.
Ah, très bien. Un avec Christ. Être un avec Christ.
J'ai tout en Christ.
J'ai tout en Christ. Très bien.
Vas-y.
Pardon?
La plénitude
en Christ. Très bien. Oui.
Christ habite en nous.
Christ habite en nous. Oui, c'est vraiment le cœur du mystère que Paul veut. C'est l'évangile, quoi. Oui.
On a un mot, c'est Christ.
Un mot, c'est Christ. Oui, un seul mot. Oui, ça, c'était ma prochaine question. Si vous avez fait un seul mot. Donc, Christ, libération. Pour moi, c'était le mot tout, parce que ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Tout, 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 tout. Est-ce que vous avez d'autres mots pour tout résumer? Pardon?
Circoncision qui ne vient pas des hommes.
Oui, oui, du cœur. Très bien. Très bien. Alors, pourquoi est-ce si important? Pourquoi c'est tellement important de saisir ce que nous venons de dire? À votre avis. Si nous n'avons pas tout en Christ, il nous manque quelque chose. Et comment trouver? Peut-être il faut faire beaucoup de choses. Hein? Des pèlerinages, des prières, des rites, des régimes, des délivrances, des visions, des rêves. Mais si nous avons tout en Christ, ça change tout. Ça change tout. Et une chose, j'ai réfléchi à ça. Aujourd'hui, si tu rencontres quelqu'un pour la première fois, on demande alors, tu es qui? Et souvent, on va résumer un peu qui nous sommes avec les choses qui sont bien, qui sont vraies, mais qui sont temporaires. Ou, voilà, et qu'on n'a même pas choisi. Par exemple, moi, je suis américaine. Je n'ai pas choisi ça. Ou je suis célibataire. Je n'ai surtout pas choisi ça. Mais quand on se présente, on va souvent dire ça. Je viens d'ici, ou j'ai tel âge, ou je suis divorcée. Souvent, ce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et ça peut changer de jour en lendemain, n'est-ce pas? Votre métier ou votre famille. Mais ce n'est pas ça notre vraie identité. Ces choses sont vraies de nous. C'est vrai, mais ce n'est pas notre vraie identité, n'est-ce pas? Si nous sommes en Christ, c'est ça notre vraie identité, et ça ne peut pas changer. Jamais. Et c'est beau que ce n'est même pas vraiment moi qui l'ai choisi. Dieu m'a choisi pour être en Christ. Même avant de créer le monde. Ça, c'est mon identité, et ça me donne beaucoup de sécurité. Ça me donne le repos que mon âme recherche. Je suis en Christ. Et tout ce que Dieu a fait en Christ, il a fait pour moi. J'ai toute bénédiction spirituelle. C'est merveilleux. Ce sont les bénédictions éternelles, n'est-ce pas? Et qui ne vont pas changer. Et comme j'ai dit, la suite de Colossiens, ça va nous expliquer d'une manière très concrète ce que ça veut dire. Des exemples dans la famille, dans le couple, dans le travail. Donc Paul, il sait que c'est très bien, mais on se dit, mais comment appliquer ça? Bon, Paul, il va les expliquer, et aussi les autres sœurs vont les expliquer par la suite. Voilà. Mais dans la deuxième partie aujourd'hui, on voulait vous donner un peu du temps en groupe pour réfléchir surtout au verset clé. Le verset que nous avons mémorisé, parce que c'est très riche, il y a des images différentes dans ce verset. Donc, je vous ai laissé sur la page 25, voilà, un petit guide. Et vous pouvez voir ça dans mon groupe.
Et puis, après avoir lu la définition, et puis, c'est bien de lire d'autres versets qui reprennent les mêmes phrases, les mêmes mots, pour mieux comprendre le mot. Après, vous pouvez vous dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce verset ou dans cette phrase que je dois faire, ou croire, ou pour laquelle je peux rendre grâce à Dieu, ou demander pardon à Dieu, demander son aide. Comment vraiment méditer chaque phrase de ce verset pour que ça soit gravé dans nos cœurs. Ok? Vous avez des questions par rapport à ça? Venez vous servir encore si vous voulez quelque chose à boire. Et puis, on va se revoir pour quelques minutes de résumé. Ok? On a une vingtaine de minutes pour faire ça. Ok? Okay.